Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de faire la connaissance de Jean-Marc Page. Natif de Romont, ce Sédunois d'adoption est aujourd'hui professeur de yoga et thérapeute, après avoir exercé plusieurs professions. Lors de cette interview réalisée au printemps 2021, il va nous parler de trois expériences professionnelles qui furent les siennes. Délégué au CICR, conseiller en personnel auprès d'un bureau de chômage, et directeur du Centre Roman d'enseignement à distance, le CRED, à Sierre. Jean-Marc Page commence par nous parler de son enfance. Nous l'écoutons.
Mon enfance, en quelques mots, je suis né dans une famille très simple, avec trois grandes sœurs. Et mon papa faisait un métier assez intéressant parce que son activité, c'était d'être marbrier. Donc, très en lien avec les cimetières, avec la mort. Et je garde un souvenir. Romont, c'est une petite ville. Il n'y avait pas de distinction entre les personnes qui étaient étudiants, apprentis et autres. On était tous mélangés. Et puis, c'était une vie très simple, faite de beaucoup d'activités d'extérieur. Mes parents avaient peu de moyens. Donc, moi, j'ai jamais connu l'hôtel, par exemple, avant l'âge de 18 ans. On faisait du camping à l'époque. Et puis, c'était assez extraordinaire parce que finalement, on était vraiment à ce moment-là en lien avec la nature, y compris les petites activités qu'on avait en parallèle. Ça pouvait être le football, mais c'était beaucoup le scoutisme. Et le scoutisme, c'était aussi quelque chose qui nous connectait entièrement à la nature.
Très bien, on va passer un petit peu plus loin dans le cours de votre existence. Quelles sont les études que vous avez effectuées par la suite?
Les études que j'ai effectuées, c'est des études de géographie. C'est vrai, j'ai pas eu beaucoup à réfléchir quand j'ai fait ce choix, parce qu'il y avait ce besoin quelque part d'aller vers l'extérieur, de s'intéresser aux gens, et puis de s'intéresser, aller au-delà de la petite ville dans laquelle j'habitais.
Donc un diplôme universitaire en
Un
géographie, hein.
diplôme universitaire en géographie à Fribourg, à l'université de Fribourg.
Par la suite, vous avez donc été délégué au Comité international de la Croix-Rouge. Dans quel pays?
Donc, j'ai fait trois missions comme délégué du CICR. Une vocation qui est venue très jeune, aussi par ma ville natale, où il y avait pas mal de gens qui travaillaient déjà pour le CICR. Donc j'ai travaillé en Ouganda, au Pakistan et au Liban. Et chose assez incroyable, la première fois que j'ai fait un voyage dans ma vie, un vrai voyage, c'était en Tanzanie, en 1983. Et quand on part au CICR, on ne choisit pas où on va, on ne choisit pas l'activité qui va nous être attribuée. Et une année plus tard, je partais au CICR en 1984 et je me retrouvais de l'autre côté,
Dans le pays voisin.
dans le pays voisin, quoi.
Quelles sont au quotidien les activités d'un délégué au CICR?
Alors, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas choisi justement l'activité qui devait m'être attribuée, mais la première, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai été délégué détention en Ouganda, donc on a consacré, j'y ai fait une année. Donc là, principalement, c'était tout ce qui touchait à la visite de prisonniers. Et notre quotidien était fait de ça, c'est-à-dire de voyage sur le terrain, de contact avec les autorités pénitentiaires et surtout de passer du temps à l'intérieur des prisons pour rencontrer des gens, les interviewer, prendre leur nom, écouter leurs besoins. Il y avait toujours avec nous quelqu'un qui s'occupait de l'aspect médical, donc on s'occupait aussi de leurs problématiques de santé.
Donc là, avec tout type de détenus.
Alors là, en Ouganda, c'était particulier. Donc, ce qui nous intéressait au premier chef, c'était les détenus pour des raisons politiques. Mais pour pouvoir eu accès à ces gens-là, à cette catégorie-là, il a fallu visiter aussi grand nombre d'autres détenus qui étaient des prisonniers de droit commun. Ce qui nous a amené à peu près pendant une année à visiter des prisons distribuées sur l'ensemble du territoire, et puis ça correspondait à peu près à 12 000 détenus. Donc un énorme travail.
Est-ce que vous avez senti que les détenus osent vraiment dire ce qui ne va pas? Est-ce que parfois ils ont peur de mesures de rétorsion de la part du...
Non, je crois qu'on a d'une part, ce qui était très particulier par rapport à d'autres missions, c'est que en Ouganda, on n'avait pas besoin d'interprète. Donc on était vraiment seul face aux détenus, en individuel ou en
Vous
groupe.
parliez anglais, donc.
On trouvait toujours quelqu'un à l'intérieur des prisons, dans les prisonniers, qui parlait l'anglais. Donc il n'y avait pas ce souci. Par ailleurs, oui, on obtenait beaucoup, beaucoup d'informations de ces gens-là, des gens avec qui on était en contact. Et c'était vraiment important parce qu'en fait, on ne voyait qu'une partie de la population carcérale. Il y a des gens qui étaient détenus dans ce qu'on appelait des baraques militaires à qui on n'avait pas accès. Et ces prisonniers qu'on visitait dans des prisons ou dans ce qu'on appelait des police stations nous donnaient de l'information justement sur ce qui se passait dans ces military barracks parce que eux-mêmes, certains étaient sortis de ces lieux-là. Donc on recevait beaucoup d'informations de la part de ces gens-là.
Et après, le CICR a parfois, dans ce cas précis, a eu parfois vraiment l'occasion de faire pression sur le gouvernement pour que les conditions de
Mais
détention soient meilleures. Qu'est-ce que...
là, il y a eu un énorme travail de récolte d'informations. On a une personne qui s'est consacrée à ça pendant des mois et des mois. Et le jour où on était prêt à aller vers les autorités pénitentiaires, vers les autorités gouvernementales pour justement faire état de ce rapport, de ce qu'on avait entendu, de ce qu'il y a, de toutes ces allégations, il y a eu un changement de gouvernement. Donc finalement, avec ce changement de gouvernement, les choses ont totalement changé. Mais le rapport, tout
En
ce travail,
bien.
en bien à l'époque,
Tant
oui.
mieux.
Moi, j'y étais plus parce que j'ai quitté avant le coup d'État. Puis juste pour information, ce coup d'État a mis au pouvoir un monsieur qui s'appelle Monsieur Museveni, qui, sauf erreur de ma part, est toujours en place aujourd'hui en Ouganda. Mais c'était en bien parce que souvent les gens qui étaient dans le gouvernement qui a fait ce coup d'État, c'était des gens qu'on avait visités en prison. Donc ils avaient une très bonne image aussi du CICR. Donc c'était beaucoup plus facile par la suite de travailler.
Très bien. Et les deux autres missions, c'était des choses très différentes?
Bah, très différente parce que le Pakistan, c'était une situation complètement différente en lien avec le conflit en Afghanistan dans ces années-là. Et puis le CICR n'était pas présent. En 1985, là où, quand je suis parti au Pakistan, toute la délégation du CICR était basée à Peshawar et à Quetta. Et c'était essentiel. Et il n'y avait pas de délégation du CICR en Afghanistan. C'était encore la période où les Russes étaient présents en Afghanistan. Et ce qui veut dire que notre activité principalement, c'était une activité d'ordre chirurgical. Donc il y avait un hôpital chirurgical qui était basé à Peshawar et puis qui accueillait les blessés afghans. Et puis il s'agissait d'accueillir ces blessés afghans sur la frontière, mais à 4, 5, 6 heures de l'hôpital. Et puis de préparer ces gens qui avaient survécu à la guerre, qui avaient vraiment des traumatismes assez liés à des bombes, liés à des bombardements, liés à des éclats d'obus, liés à des mines antipersonnelles, etc., toutes sortes de mots. Et puis ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'amputations, beaucoup d'opérations sur tout le corps pour les nettoyer de ces éclats d'obus qu'ils avaient reçus, donc des situations assez graves. On les préparait sur la frontière avec des médecins et des infirmiers locaux qu'on engageait. Et puis après, on les transférait pour qu'ils soient, disons, pris en charge par l'hôpital chirurgical de Peshawar, du CICR. Et ça, c'était un travail absolument incroyable parce que on avait des médecins locaux, afghans ou pakistanais de qualité, et puis des médecins suisses venaient passer 3 mois, 6 mois pour faire ces opérations. Donc là, un gros travail de réhabilitation de ces personnes-là. Alors moi, mon activité là-bas, j'étais en contact avec les partis politiques qui étaient sur place à Peshawar à l'époque. Beaucoup de gens dont on entend encore parler aujourd'hui, des responsables politiques étaient basés à Peshawar, donc on avait des liens avec eux. On allait négocier, on allait discuter, on allait faire de la diffusion auprès des combattants aussi, de la diffusion par rapport au droit international. Et puis, comme il y avait beaucoup de gens des moudjahidines, des gens, des soldats afghans qui étaient basés, qui gravitaient autour de ces chefs. On faisait appel à eux aussi pour les dons du sang. Et ça, c'était dans le monde musulman, c'était pas une petite affaire, justement, de pouvoir récolter du sang pour les blessés qui étaient leurs concitoyens. Donc ça, c'était une partie de mes activités, comme une autre partie, celle d'aller le long de la frontière pour aller visiter ces postes de premier secours qui accueillaient les blessés afghans, prendre contact avec les partis politiques sur place, etc. Puis ce qui était assez intéressant, c'est qu'entre la frontière afghane et Peshawar, il y avait une zone autonome où il fallait avoir une autorisation spéciale pour traverser cette zone. Et là, c'était le Far West. Et moi, j'ai eu la chance, compte tenu de cette activité-là, d'avoir cette autorisation et de pouvoir traverser ces zones-là, ce que très peu de gens pouvaient faire à l'époque.
Et la troisième mission ?
Alors, le Liban, aussi un contexte complètement différent, avec des foyers de guerre qui peuvent éclater d'un jour à l'autre dans différentes régions du pays. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. J'étais responsable de la sous-délégation du Sud-Liban. Et puis, le jour où la personne que j'ai remplacée à ce poste-là a quitté, pratiquement jour pour jour, il y a un conflit armé qui a éclaté entre les Palestiniens et puis les chiites à Mal à l'époque. Et puis, ça a été une période très, 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 très intense, avec vraiment le vécu d'une guerre qui se déroulait sous mes yeux, avec des tirs d'artillerie, avec l'intervention de l'armée israélienne, etc. Donc là, c'était de s'occuper, d'assister les populations qui, tout à coup, se retrouvaient sans rien. C'était d'apporter de l'aide à la Croix-Rouge, parce qu'on était très proche de la Croix-Rouge nationale libanaise pour récupérer des gens sur le terrain qui étaient blessés, faire des transferts avec les ambulances, etc. Donc une période très intense, très exposée dans un pays que je ne connaissais pas, mais mes délégués partaient sur le terrain, je ne savais pas où ils allaient parce que tout a éclaté vraiment au début de mon séjour. Donc là, il a fallu faire appel à bien travailler avec les gens qui avaient plus d'expérience que moi, qui étaient des Libanais qui travaillaient pour nous, et puis à faire appel à mon sang-froid, ma capacité d'adaptation, des choses qu'on ne soupçonne pas, puis qui tout à coup sont là parce qu'on fait face à une urgence. Alors soit on rentre à la maison, soit on fait face à la situation. Alors moi, j'ai eu la chance de faire face à la situation et puis vraiment de faire un travail d'équipe extraordinaire. Parce que,
comme quoi, parfois, on est étonné de ses propres compétences.
Complètement, oui, complètement. Quand on est dans des situations comme ça, on se découvre à fond des choses insoupçonnées.
Sur le plan personnel, de manière générale, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience, ces trois missions au CICR?
Pour moi, ça a été un peu les fondations de ma vie, de mon parcours professionnel, parce que d'une part, c'est vraiment une vocation que j'ai eue très très tôt. Je pense qu'à l'âge de 17-18 ans, j'avais vraiment envie de partir au CICR. C'est pour ça que j'ai envisagé déjà d'apprendre l'anglais quand j'avais 20 ans, parce qu'on nous demandait d'avoir l'anglais, de faire une licence universitaire. Bon, ça, c'était un peu mon chemin, parce que c'était un peu les conditions qu'il fallait remplir pour partir. Avec cette curiosité que j'avais du monde, puis l'envie de me mettre au service des autres, c'était vraiment une institution extraordinaire pour justement réaliser quelque chose dans ma vie d'utile et puis d'extrêmement enrichissant. Donc pour moi, c'est vraiment inscrit profondément. Puis je suis toujours en contact avec des gens du CICR parce qu'il y a une association des anciens délégués du CICR qui existe. Et puis on se réunit tous les mois à Sion parce qu'il y a un chapitre valaisan où il y a plein de gens qui ont fait 20 ans, 25, 30 ans de CICR. Donc le contact est gardé avec l'institution, en tout cas avec des gens qui ont collaboré.
Très bien. Est-ce que parfois vous avez quand même eu tendance à vous décourager, à perdre un peu foi en l'humanité face à aux guerres, face à des choses très difficiles que vous avez vues?
Oui, quand on fait ce travail-là et qu'on est confronté à la réalité de ces pays-là, évidemment que on est confronté à la souffrance des autres. Et puis, vous voyez, ces conflits, même si en Ouganda ça s'est un peu calmé, mais ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, entre Palestiniens et Israéliens en Israël, les gens qu'on côtoyait au Liban, les Palestiniens sont toujours dans des camps, sont un petit peu limités dans leur mouvement. Au Pakistan, ben, on était en lien avec le conflit afghan il est toujours actif aujourd'hui, sous une autre forme. Donc, on se dit que les choses, on peut se dire que les choses, elles n'avancent pas. Il y a d'autres conflits, bien sûr, ailleurs dans le monde, mais c'est quand même assez effrayant. Puis, et c'est des pays qui ont tout, quelque part, pour bien vivre. Donc, tout à coup, ça bascule dans l'horreur, dans la souffrance, dans des situations extrêmes, avec des extrémistes aussi qui entretiennent ces foyers-là, avec toutes les interventions des pays extérieurs, on les connaît, hein, qui interviennent, ces grandes puissances qui bloquent ces situations, qui font pas nécessairement le bien nécessaire pour les améliorer. Donc c'est clair que c'est décourageant. Mais quelque part, quand on est délégué du CICR, moi je me dis que si on peut déjà sauver une vie, c'est déjà beaucoup. Et je crois qu'avec les témoignages qu'on peut recevoir, qu'on peut découvrir au-delà, à partir de films qui ont été réalisés dans ces pays-là, de gens qui ont été visités, que l'on a visités dans les prisons, je crois que malgré tout, on apporte beaucoup d'humanité, de soutien, de protection à ces personnes-là. Et je crois que ça, c'est déjà important.
Jusqu'à quel âge vous avez travaillé pour le CICR?
Donc moi, je suis rentré du CICR à 30 ans. Donc j'ai fait 27-30 ans. Parce qu'avant de partir, après mes études, j'ai fait 2 ans d'enseignement. Parce qu'à l'époque au CICR, on nous demandait justement d'avoir un peu d'expérience professionnelle. Donc je ne suis pas parti tout de suite après mes études. Ouais. Et quand je suis rentré, j'avais 30 ans.
Vous avez ensuite été donc directeur d'une fondation pour le développement durable.
Alors, pas tout de suite, parce que d'abord, j'ai travaillé 8 ans dans un bureau d'environnement comme collaborateur scientifique.
D'accord.
Ça, c'était à partir de 87. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'enseignement à distance, puis ensuite à la fondation pour le développement durable des régions de montagne, et ensuite comme conseiller en personnel.
D'accord.
Donc là, je vous corrige un petit peu par rapport à l'introduction, la chronologie. C'est pas important.
Très bien, très bien. Donc,
Là, j'étais collaborateur scientifique dans un bureau. Et c'est comme ça que je suis toujours ici, parce que ce travail, je l'ai trouvé en Valais, où je m'étais établi quand je suis rentré du CICR. Et puis, c'était le début de tout ce qui touchait à la protection de l'environnement, aux études d'impact. Donc, j'ai eu la chance, comme géographe, de travailler dans ce domaine-là.
Vous avez aussi été donc conseiller en personnel dans un office régional de placement. Est-ce que vous avez trouvé difficile d'accompagner des gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont peut-être perdu récemment leur travail, qui sont en recherche peut-être personnelle?
Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce qu'en fait, quand j'ai été engagé à l'Office régional de placement, on m'a demandé quelle était ma motivation, etc. Puis moi, j'ai mentionné que finalement, ce métier, pour moi, j'avais fait une période de chômage en 2000, donc j'avais déjà une expérience du chômage en tant que chômeur, en tant que personne en recherche d'emploi. Donc je voyais bien ce qui se passait dans ces bureaux, puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais fait au CICR. Parce qu'en fait, on est amené à faire respecter la loi. Au CICR, c'était le droit humanitaire, puis à l'ORP, ben, c'était le droit sur l'assurance chômage. On était amené à faire des entretiens sans témoin, c'est-à-dire seul dans mon bureau avec une personne en face de moi, et au CICR c'était dans la prison avec une personne en face de moi. Puis on était amené aussi dans les deux métiers à dire oui puis à dire non. Parce qu'une personne qui est au chômage, il y a beaucoup de demandes, elle a pas mal de besoins, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en fonction de la loi, puis il y a des choses qu'on peut faire. Donc moi je trouve qu'il y avait une grande similitude. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai considéré que ce travail, c'était vraiment un travail d'accompagner la personne, de la soutenir, d'être à l'écoute de cette personne, et puis vraiment de l'accompagner au mieux pour qu'elle puisse vraiment retrouver une activité, puis reprendre confiance en elle, pas s'effondrer dans cette situation. Et je suis quelqu'un d'assez positif dans ma vie, donc moi j'ai toujours donné une image assez positive de cette période, parce que je me disais qu'il y a plein d'éléments positifs dans le chômage. C'est un temps d'arrêt, un temps de pause. Des fois ça fait du bien d'avoir un temps de pause pour réfléchir, d'où je viens, où je veux aller, plus de temps pour sa famille, plus de temps pour soi, etc. Donc il y avait plein d'éléments positifs. En Suisse, les gens, on a de la chance aussi, c'est qu'on touche, de l'argent au chômage, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Donc quelque part, j'avais cette vision assez positive du chômage, et puis c'est par ce biais-là, que c'est cette énergie-là que j'essayais de partager avec mes assurés. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce travail. Tant qu'on nous a laissé cette liberté, le temps d'accompagner les gens, parce qu'après le système a changé, c'est devenu beaucoup plus informatisé, beaucoup plus administratif.
Et puis trop strict également.
Trop strict. Chaque conseiller a quand même une certaine marge de manœuvre, donc ça dépendait de tout. Mais après, le système aujourd'hui, je pense qu'il a bien changé. Et puis moi, c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait mon temps là-bas, puis j'ai décidé d'arrêter assez tôt finalement.
Est-ce que vous vous souvenez d'une personne que vous avez pu accompagner et qui a pu vraiment, de manière très frappante, retrouver un travail, un cadre de vie très positif? Est-ce qu'il y en a une personne plus qu'une autre dont vous vous souvenez?
Il y en a beaucoup, mais il y a une personne que j'ai pu accompagner qui était quelqu'un qui était représentant, je ne sais plus maintenant dans quelle branche exactement, et puis qui avait vraiment décidé de faire un changement dans sa vie. Il avait un gain assuré assez élevé, donc une situation tout à fait confortable, mais ce n'est pas ça qui l'intéressait.
Par gain assuré, on entend ?
Le gain assuré, c'était le salaire qu'il avait auparavant. Et puis, en fait, quand il a reçu son congé de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle il travaillait, il a décidé de se former un peu, de s'intéresser à l'agriculture biologique, etc. Donc, il s'est pas inscrit au chômage, il a fait des stages, etc. Et puis, là, il a pris goût. En découvrant ses activités liées au monde agricole, il a pris goût à ce type de cheminement. Et puis, il est venu avec ce projet au chômage pour les 12 mois où il pouvait encore toucher des indemnités. Et puis, moi, je l'ai accompagné dans ce projet. Et puis, alors, son projet, il s'est réalisé. Donc, c'est clair qu'il devait faire des recherches d'emploi dans son domaine. Mais on a quand même organisé des stages par le biais du chômage, des mesures qui étaient disponibles pour qu'il puisse renforcer ses compétences. Puis finalement, avant qu'il arrive au terme de ses indemnités, donc il n'en avait puisé que la moitié finalement, il a quitté le chômage, il a monté son projet, puis maintenant il gère un domaine agricole en France. Donc des histoires comme ça, je pourrais en raconter plein. Ça, c'est peut-être la plus belle parce que c'est un changement total qui correspond bien à l'air du temps aussi. Mais il y a plein de beaux projets. Et malheureusement, on n'en parle pas assez.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On a peut-être plus tendance à voir ceux qui retombent pas sur leurs pattes.
Et ouais. Apparemment, ou des choses négatives, ou la pression qu'on mettrait sur les gens, etc. Non, je pense que si on accompagne bien la personne, évidemment, là, on peut vraiment réaliser de belles choses. À part ça, bon, c'est un métier quand même. Où moi j'ai toujours pensé que la première chose qu'il faut faire quand on fait ce genre de métier, quand on est dans le social, dans la santé ou autre, face à des gens qui ont eu des passages de vie difficiles, faut vraiment penser à s'accompagner soi-même, et puis là on peut vraiment accompagner la personne.
Jean-Marc Page, vous avez aussi été directeur du Centre Roman d'enseignement à distance, qui aujourd'hui a changé de nom, qui est devenu Unidistance. En quoi consiste cette formation? Quel type de diplôme est décerné?
La plus grande partie, enfin, c'était l'objectif de départ, hein, c'était d'offrir la possibilité à des gens d'obtenir une formation universitaire complète. Donc, c'est. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce qu'on parle de bachelor et de maîtrise. Eh bien, c'est vraiment ces titres-là qui sont donnés aux personnes qui suivent ces cours-là. Donc, c'est des titres universitaires. Après, il y a quelques modules. Je pense que ça existe toujours, qui sont plutôt des modules de formation continue dans différents domaines.
Très bien. Quel était le public cible? Est-ce que c'était des gens qui faisaient cette formation en cours d'emploi ou par exemple des sportifs?
Alors, je peux en tout cas parler que de mon époque parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas suivi, mais aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a Ramon Sennhauser,
le skieur.
Le skieur qui a fait 6 études de distance à Brigg en allemand. Donc ça c'est un bon exemple, il y en a eu d'autres hein, qui ont fait des formations, d'autres sportifs, d'autres gens un peu connus qui associent leur activité sportive professionnelle. Mais, donc essentiellement à mon époque, mais, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est des gens qui font des études en cours d'emploi, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas eu l'occasion à 20 ans pour toutes sortes de raisons de faire des études, ils ont quand même la maturité ou un baccalauréat pour être admis dans cette institution d'enseignement à distance de niveau universitaire. Et là, il y avait vraiment des profils magnifiques. Et moi, j'ai adoré ce travail aussi par rapport aux gens, parce que tout à coup, ils avaient un nouveau projet de vie. Puis ils avaient, je ne sais pas, moi, 35, 40 ans, puis ils étaient journalistes, puis tout à coup, ils voulaient faire une licence en communication. Je me souviens d'une personne qui était architecte et puis son bureau avait besoin de quand même de connaissances en gestion, management, donc il a fait une formation en économie. Il y a des infirmières tout à coup qui s'intéressaient à faire de la psychologie. Enfin bref, c'était vraiment extrêmement intéressant parce que c'était des gens très motivés, qui faisaient un bout de chemin dans ses études. Tout le monde n'arrivait pas nécessairement au bout parce que ça prenait du temps. Certains allaient très vite et suivaient le même rythme qu'un étudiant normal. Donc essentiellement des adultes, un peu plus de femmes que d'hommes, mais il y avait les deux sexes étaient représentés, disons, mais un peu plus de femmes tout de même parce que voilà, tout à coup, elles avaient des enfants qui étaient grands, elles avaient un peu plus de temps, elles avaient déjà une activité professionnelle malgré tout, et puis elles se lançaient ce défi.
Et vous avez le temps, en tant que directeur, d'avoir des entretiens avec les élèves, en tout cas au début?
Presque tout le temps. Ça a été mon drame. Mon drame et ma chance, quelque part, parce que moi, j'adore le contact. Mais il est vrai que j'étais un peu au four et au moulin au début parce que j'avais pas trop de personnel, on avait peu de moyens quand ce projet a été lancé. Et puis ça veut dire que j'étais des fois présent le samedi quand on accueillait les étudiants. Souvent on me demandait pour que je puisse les orienter. Donc souvent j'étais la personne de référence la journée au téléphone pour leur dire voilà, quel est votre projet, quelles sont vos intentions. Je faisais un peu de l'orientation professionnelle aussi, comme on le dit.
Beaucoup d'heures supplémentaires, si j'entends bien.
Beaucoup d'heures supplémentaires, ça c'est sûr, mais énormément de contacts avec les élèves et puis beaucoup de contacts aussi avec les conseillers pédagogiques que j'avais engagés à l'époque. J'avais 35 personnes qui travaillaient puis qui assuraient. Donc c'était des gens qui avaient une formation universitaire, un doctorat ou qui étaient des doctorants dans les universités suisses, romandes, puis qui accompagnaient, qui faisaient du tutorat.
Donc, pas forcément à temps complet,
pas à temps complet, ils consacraient un peu de temps. Et puis c'était des gens passionnés parce que accompagner des adultes en formation dans cette situation-là, pour eux, c'était une expérience unique. Quoi.
Comment est-ce que vous avez pu faire l'équilibre entre les cours en présentiel et à distance? Déjà une première chose, on imagine qu'à l'époque, il y avait très peu de cours par Internet.
Oui, alors évidemment, on est parti sur des choses très simples, quelque part. Donc, on achetait des formations. Ces formations étaient sous format papier, donc des polycopiés, des cours qui avaient été créés spécifiquement pour les études à distance. Et donc, les gens recevaient leur matériel à la maison, travaillaient sur ce matériel-là. Il y avait souvent des manuels d'apprentissage, des activités sur lesquelles ils devaient travailler pour favoriser le processus d'apprentissage, assimiler la matière. Donc c'est vrai qu'il y avait une grande partie du travail qui se faisait à domicile de manière totalement indépendante. C'était le but, hein, de pouvoir concilier une activité professionnelle, familiale et des études. Mais l'idée pour nous, elle a été tout de suite très claire qu'il fallait quand même les réunir, ces gens-là. Donc, à un rythme de toutes les 5 semaines, ils venaient à Sierre et puis ils étaient accueillis par justement un tuteur ou un conseiller pédagogique. Puis là, ils passaient toute la journée ensemble et puis ils travaillaient. Ils pouvaient poser les questions sur la matière, des cours qu'ils suivaient, etc. Et puis, on a commencé quand même à mettre en place un peu un système aussi de... Et ça, c'était incroyable parce que on avait un système de visioconférence. Donc, on pouvait mettre les élèves en contact avec leurs profs à Dijon, à Grenoble, etc. Mais c'était compliqué à l'époque parce que... aujourd'hui, on utilise Zoom. Il y a plein de possibilités de faire de la visioconférence. À l'époque, c'était assez compliqué, mais on a essayé de développer ces outils-là. On a essayé de développer un outil de tutorat en ligne aussi, pour qu'il y ait des forums, que les gens se réunissent, puissent dialoguer ensemble, etc. Mais vraiment, on était au début de l'usage de ces technologies. Mais le présentiel était important.
Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. On imagine que pour les étudiants, c'était quand même gratifiant, motivant, on dira, de se voir de temps en temps,
même si c'était... Oui, c'était important qu'ils aient ce soutien par les tuteurs, qu'ils voient la personne, qu'ils voient où le CRED était situé, parce qu'en plus on était situé au Château-Mercier, donc c'était génial de les accueillir là-bas. Et puis, ils venaient aussi passer des examens en Valais, ils n'avaient pas besoin de se rendre en France ou au Canada, donc ils venaient passer des on avait des sessions d'examen ici. Et puis, quand ils venaient se réunir toutes les 5 semaines, ben, ça permettait aux gens de se connaître, puis après de faire des petits groupes pour ceux qu'ils souhaitaient, puis de se retrouver à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel, etc.
Et dans l'ensemble, est-ce que vous pourriez dire si ce type de formation à distance était mieux, moins bien qu'une formation classique à l'université ? C'est difficile à comparer.
On va dire qu'en termes de contenu, on a fait quand même des études de qualité au début parce qu'on a acheté des formations en France, on a acheté des formations au Canada, puis on les diffusait ici, on organisait tout le système avec le tutorat. Donc on a évalué la qualité parce que moi je ne voulais pas démarrer dans ceci sans assurer la qualité. On a même refusé des formations parce qu'elles n'étaient pas de qualité suffisante. Après, honnêtement, le plus important, c'était la qualité des gens. Parce qu'imaginez gérer une famille, gérer une profession et puis gérer des études, ça demande une capacité d'organisation, d'adaptation, de discipline, etc. Et ça, c'est des compétences dont sont friandes les entreprises. Donc même si les personnes, je leur disais toujours, même si vous n'arrivez pas au bout des études, ce que vous avez fait ici, ça va être reconnu. Parce que c'est un effort vraiment gigantesque. Et donc, la qualité des études dépendait beaucoup de la qualité des gens. Et la qualité des gens était véritablement là, quoi. Impressionnant. Et ça, c'était vraiment beau à voir.
C'est ainsi que se termine ce reportage. Merci donc à Jean-Marc Page, que nous devrions en principe retrouver prochainement pour une deuxième partie d'interview. À vous qui nous écoutez, je vous transmets mes meilleures salutations et à tout bientôt.